بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. السلام عليكم. Donc mes chers frères et sœurs, on va faire un programme de 10 minutes ou 15 minutes, donc par rapport à la salat al-janaza qu'il y a eu sur un de nos frères qui nous a quittés ce soir. Qu'Allah Azza wa Jal lui accorde au degré de le paradis, que sa tombe, inshallah, soit un jardin parmi les jardins du paradis. Et qu'Allah Azza wa Jal accorde la patience qu'il faut à ses enfants. Hein, il avait de nombreux garçons apparemment. Qu'Allah leur accorde tous la patience, le sabar qu'il faut, sabrun jamil, inshallah. Et que le jour de mahshar, le jour de qiyama, qu'Allah les réunit, cette famille soit réunie, et qu'ils accèdent ensemble dans le paradis. Vous savez, quand une personne quitte ce dunya, quand un musulman quitte ce dunya, on ne dit pas que c'est un frère comorien, ou que c'est un frère maoré, ou que c'est un frère d'origine de Madagascar, ou d'origine de tel, là, wallah, ça c'est les langages d'être humain, ça. Quand une personne quitte ce dunya, c'est un mu'min ou un kafir. C'est ça qui est important. Maintenant, que ce soit un mu'min descendant de Quraysh, ou que ce soit un mu'min descendant de je ne sais quelle famille, de quel coin perdu, de quelle île perdu, de quel océan, wallahu alam, ça n'a strictement aucune importance. Parce que lorsqu'on est déposé dans la tombe, et lorsque la tombe se referme sur nous, manière de parler, c'est-à-dire lorsqu'on est enterré et qu'on se retrouve seul dans la tombe avec les anges qui viennent, qui font asseoir le mayit, qui font asseoir le défunt et qui lui posent des questions, et que cette personne se rendra compte dans sa tombe que l'issue de sa vie, l'issue de l'orientation qu'il a donnée à sa vie, mais c'est maintenant qu'il commence à en voir les fruits, c'est maintenant qu'il commence à en voir les avantages ou alors les conséquences, nasallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet endroit sombre et obscur qu'est la tombe, votre travail, vos diplômes, votre niveau de vie, le montant que vous aviez dans votre compte en banque, ce que les gens disaient de vous, l'opinion favorable ou défavorable que les gens avaient de vous, tout cela n'a strictement aucune importance. Les anges qui vous posent des questions, ils n'ont pas votre CV en main. Que ça c'est telle personne, ah oui, il est comme ci, comme ça, là, wallah. La seule chose qui les intéresse, c'est quoi? C'est la réponse immédiate que vous allez donner. Et cette réponse immédiate, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur, comme on apprend un poème pour un examen, quand le professeur va poser la question, quand nous, un oral de bac, ou je ne sais quoi, on prépare. Quand on pose la question, ben je déballe tout ce que je connais, là, wallah. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mémoriser. Même si depuis que les enfants sont petits, on les apprend le kalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, etc. Mais dans la tombe, subhanallah, c'est ce qu'il y a vraiment, sincèrement, profondément dans le cœur qui va sortir. Et c'est ça qui sera la réponse donnée aux anges. Et il n'y a pas plus heureux que ce musulman, que la personne qui est décédée, des âgés apparemment. Parce que je connais un de ces garçons, qui est une personne qui assiste au programme à Saint-Cotil, inshallah, alhamdulillah. Et donc, vu l'âge de ses enfants, c'était quelqu'un d'un peu âgé. Et comme on dit dans le programme récemment, c'est un grand ni'mat. Le hadith parle de manchaba, si je ne me trompe pas, shaybatan fil islam. C'est-à-dire ce musulman qui grandit, qui vieillit en tant que musulman. Ça, c'est un grand ni'mat de la part d'Allah Azza wa Jal. Une personne qui a grandi dans l'obéissance d'Allah et qui voit sa barbe blanchir de l'obéissance d'Allah. Ça, c'est une grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mieux qu'une personne vive jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans et qu'il meure dans l'obéissance d'Allah qu'une personne meure jeune, même dans l'obéissance d'Allah. Pourquoi? Parce que plus la personne va voir ses jours allongés, plus la personne pourra faire des a'mal saliha. Vous connaissez le hadith, celui qui est décédé un an après ses amis, qui a fait Ramadan en plus. Hadith Imam Ahmad qu'on avait déjà cité dans le mois de Ramadan. C'est de la même manière. Plus quelqu'un va vivre dans l'obéissance d'Allah, Alhamdulillah, tout cela sera dans son mizan et hasana. Pour ça, subhanallah, on faisait ce rappel-là il y a quelques jours au Montreuil. On disait que, pour ça qu'on ne doit pas dire à une personne qu'Allah te donne longue vie. Bas, mot pour la fin. Il ne faut pas dire ça. Qu'Allah te donne longue vie. Il faut toujours ajouter qu'Allah te donne longue vie, fi ta'a. Qu'Allah te donne longue vie dans l'obéissance. Parce qu'il n'y a aucun intérêt maintenant qu'une personne meure à 120 ans, mais dans la désobéissance de Allah. Chaque jour, ce sera un jour contre lui. Chaque moment, chaque action sera une action contre lui. Voyez? Tandis que celui qui vit jusqu'à ce que sa barbe blanchit et qu'il reste dans le surat al-mustaqim, qu'Allah lui donne istiqama de son iman, de ses a'mal saliha, et qu'il met de cet état, mes chers frères, c'est un grand ni'mat. Même si nos a'mal n'équivaut pas les a'mal des sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, ni celui des tabi'in, des atba'i tabi'in, mais Allah Azza wa Jal aura pitié de cette personne, inshallah. Quelqu'un qui a vécu, subhanallah, jusqu'à un certain âge, et qui est resté dans istiqama, éloigné des péchés, accompli de bonnes actions, resté dans l'obéissance d'Allah, ne pas faire du mal aux gens, et qui quitte ce dunya, subhanallah, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? J'étais avec un jeune entre Maghreb et Isha, un jeune turbulent, un jeune qui fait des soucis, d'accord? Je l'ai amené en voiture, un jeune qui donne des tracas à ses parents, beaucoup, beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de jeunes dans cette situation. Je veux dire, c'est des gens avec qui on ne peut pas trop parler aussi. On peut donner des nasihat, mais à dose pédiatrique. Des petits conseils comme ça, sans que la personne dise que Moulissab le relou, hein, qu'il passe son temps à raconter, à dire, fait le bayan et tout. Je dis à ce jeune homme-là, il a 14 ans, c'est un enfant, un adolescent, je dis, la situation dans laquelle tu vis, c'est peut-être pas facile, d'accord? Elle dit, mais garde comme objectif qu'il faut absolument que mes parents soient satisfaits de moi. Parce que si mes parents sont satisfaits de moi, Allah Azza wa Jal sera satisfait de moi. Et quel plus grand contentement, quel plus grand falah, quel plus grand succès pour un musulman qui vit tout en sachant qu'Allah est content de lui et qui quitte ce dunya avec le contentement d'Allah. C'est ça l'objectif. Après ce qu'on a amené derrière, ce qu'on a laissé derrière comme argent, comme bien, comme honneur, tout ça, ben c'est vraiment, on l'a laissé derrière. Et notre frère qui vient nous quitter, subhanallah, regardez quand un défunt, quand un mayette s'éloigne de la masjid, regardez, subhanallah, le nombre de personnes qui étaient présentes. Allahu Akbar. J'étais étonné, il y avait plus de 300 personnes à peu près. À peu près 300 ou 400 personnes de toute la communauté comorienne de Saint-Denis, si ce n'est pas des attendants, alhamdulillah, qui ont fait le déplacement. À tel point, j'ai demandé à quelqu'un, mais c'était qui? C'était une personnalité. Je connais ses enfants, mais je ne connais pas le monsieur. D'accord? Et puis on m'a dit que oui, c'est une personne. Subhanallah. Alors, regardez le nombre de personnes qui l'accompagnent. Et ça nous fait bien comprendre le hadith lorsque le prophète alayhi salatu wasallam dit que lorsqu'une personne quitte ce dunya et que son mayette, hein, son corps se dirige vers la tombe, d'accord, yatba'uhu, hein, salasa, il y a trois choses qui le suivent, ahluhu wa maluhu wa a'maluhu, ou comme a dit alayhi salatu wasallam, il y a sa famille, il y a les gens, il y a au moins, subhanallah, peut-être il y a 50 ou 60 personnes au moins qui sont en train de suivre ce janaza jusqu'au maqbara. Il y a ses biens et il y a ses a'mal, ses actions, bonnes comme mauvaises. Mais lorsque la personne est posée dans la tombe et qu'on a enterré la personne, la famille revient, les biens retournent. La famille retourne et les biens également retournent. Parce que ces biens ne sont plus à lui. Shara'an, ces biens ne peuvent pas être enterrés avec lui. Ça a été dit. Quand il quitte ce dunya, ces biens sont haram pour lui. Ça ne lui appartient plus. Ça appartient déjà à qui? À ses enfants. Donc ces biens ne sont plus son mulk. Même s'il a travaillé 80 ans pour avoir des bâtiments, des immeubles, wallahu a'lam quoi. C'est plus à lui. Également, sa famille retourne. Et la seule chose qui reste dans sa tombe, c'est quoi? C'est a'mal. Alors quelqu'un qui réfléchit, parce que de nos jours on réfléchit beaucoup nous, on réfléchit, on essaie de cogiter, on essaie d'être cohérent de nos propos, de nos réflexions, on essaie d'avoir un esprit cartésien ou je ne sais pas quoi encore, mais celui qui vraiment il veut comprendre, dit subhanallah, si le Nabi alayhi salatu wassalam me dit que dans la tombe c'est que mes a'mal qui sont avec moi, et comprenons a'mal c'est saliha, bonne comme mauvaise, ou ça y est, ben, Dans quel domaine de ma vie je dois faire le plus d'efforts? Je dois fructifier mon temps dans les a'mal afin que dans la tombe, subhanallah, ces a'mal soient auprès de moi et que par la baraka qu'il y a dans ces a'mal et dans mon iman, Allah me donne le tawfiq de répondre aux questions. Vous vous rendez compte, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam enterre un sahaba et les gens sont partis, lui il reste là et ils disent aux sahaba, ud'u li akhikum bit thabat fa innahu al'ana yus'al. Demandez doua qu'Allah lui donne thabat, qu'Allah lui donne fermeté et constance, parce que les anges sont en train de le questionner. Quand la dernière personne quitte là, les anges viennent, pas forcément la dernière personne, mais le défunt entend les pas de la dernière personne qui s'éloigne. Et là il se retrouve seul. Les malaïkas viennent et posent des questions. Par exemple, il savait que les anges étaient en train de lui poser des questions maintenant.
Vous avez dit à quelques compagnons qui étaient là, Oud'ou, demandez à Allah de lui donner la fermeté parce que maintenant, fa'innahul ana yus'al. Et yus'al an mada? De quoi? Ces questions-là, c'est les questions qui couronnent sa vie. C'est son dunya, c'est ses 60 et 70 ans qui vont être éprouvés par ce irtibar, par cet examen, les trois questions. Et comme on l'a dit, ce n'est pas des questions dont on apprend les réponses par cœur, c'est des questions dont les réponses proviennent de la foi, proviennent du cœur, c'est ce qu'on a cultivé pendant toute notre vie, c'est l'axe. Si dans notre cœur, il n'y a que dunya, dunya et dunya, qu'Allah ait pitié de nous, basse, qu'Allah ait pitié de nous. Et nous vivons dans un monde où tout appelle vers le dunya. Les panneaux publicitaires, internet, tout, subhanallah, ils vous font comprendre que plus vous aurez, plus vous serez intégré, plus vous serez un citoyen correct, plus vous serez heureux. Et de l'autre côté, on n'a pas le discours. On n'a pas le discours qui invite vers l'adoration d'Allah, l'obéissance d'Allah, la mise en pratique de la sunna. Malheureusement, ce discours nous manque et on a besoin de marteler là-dessus, marteler, dire en permanence que le plus riche, l'homme le plus riche au monde, qui n'a pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur, c'est l'homme le plus pauvre au monde, c'est le plus miskin dans les deux mondes, pas dans ce monde basse. Et l'homme le plus malheureux, le plus subhanallah, le plus déshérité, le plus abandonné des gens, qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans son cœur, c'est l'homme le plus riche dans les darain, dans les deux mondes, de ce dunya, parce qu'il est dans l'obéissance d'Allah. Il a la bénédiction d'Allah, il a les du'as des malaïka, inshallah. Et dans le-delà, subhanallah, il aura des hauts degrés. Et pour qu'on comprenne comment ce bas monde, la ilaha illallah, est insignifiant, l'homme le plus riche, le plus heureux, sera mis une seconde dans le jahannam. Et Allah lui demandera, qu'est-ce que tu as connu comme bienfait de ce dunya? Il dira, j'ai rien connu. Et l'homme le plus pauvre, le plus éprouvé, le plus malade, depuis la création de Adam jusqu'au Qiyamah, il sera mis une seconde dans le paradis, mis, ou alors il verra une seconde, Allahu alam, je me trompe entre les termes. Là, on demandera, Allah ta'ala demande à cette personne, qu'est-ce que tu as connu comme difficulté de ce dunya? La personne dit, oh Allah, je n'ai rien connu. C'est-à-dire, la fraction de seconde lui fera oublier 70 ou 80 années de torture, de misère, de difficulté, de taklif. Ça, c'est réalité de l'au-delà, la ilaha illallah, mais que cette réalité-là rende nos cœurs par la grâce d'Allah azza wa jalla. Et il y a une citation fabuleuse, si je ne me trompe pas, c'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ou quelqu'un d'autre. Il disait que la nuit la plus ajib, la nuit la plus extraordinaire qu'un homme peut connaître, c'est la première nuit qu'un homme va passer seul dans sa tombe, où il n'y a pas madame, il n'y a pas enfant, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de famille. Il n'y a que la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il n'y a que vos a'mal avec vous, ou il y a autre chose, insallallah al-afiyah. La première nuit, parce que le défunt, il est conscient de sa tombe, mes chers frères. Et nous sommes conscients que nous allons passer par cette étape. La nuit la plus extraordinaire, c'est cette première nuit qu'un être humain va passer seul dans sa tombe, où il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour lui. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah donne sabbat. On a dit qu'on arrête à 9h15 hein, pour faciliter nos frères pour la fermeture. Ben justement, on avait commencé ça « Bi'isma rabbikal a'la Allahu akbar » la semaine dernière. Et justement, le verset qu'on voulait hein, essayer d'aborder un petit peu aujourd'hui, « Alladhi khalaqa fasawwa » ben c'est en rapport avec la mort. Allah, il est le khaliq. Allah est le créateur. Les ulama disent qu'il n'y a pas un ruh, il n'y a pas une âme qui naît, il n'y a pas un enfant qui naît sans que la date de son décès est déjà inscrite. Le hadith dit « Inna Allah qaddara maqadir al-khala'iq » Allah Ta'ala a décrété le destin de toute la création. « Qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi khamsina alfa sana wa kana arshuhu ala al-ma » Avant la création des cieux et la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et la terre, alors que le trône d'Allah était sur l'eau. Allah Ta'ala avait déjà tout décrété, subhanallah. Donc, Allah dit, khalaq fa sawwa. La dernière fois, on avait expliqué c'est quoi le mot khalq. Quand on dit qu'Allah est le créateur, c'est celui qui tient une créature de min al-adam, de l'inexistence, vers l'existence. C'est-à-dire, à partir du néant, Allah crée l'âme et crée la matière. Ce qu'aucune créature ne peut faire. Même les scientifiques qui clonent ou qui font des greffes ou qui font des in vitro ou autre chose, ils ne le font pas, ils ne font que retravailler une cellule souche vivant qui a déjà été créé par qui? Par Allah Azza wa Jal. Autrement dit, l'exemple qu'on donne tout le temps, donner une paire de gants au plus grand scientifique, à une équipe de scientifiques, chacun une paire de gants, une table de travail, rien d'autre. Et on dit à ces gens maintenant, créez. Jamais personne ne peut créer quoi que ce soit, même l'aile d'une mouche. Parce que la création, ça c'est une sifat, c'est une khususiyat, c'est une spécificité. Allah Azza wa Jal qui est le Khaliq. D'accord? Et la création d'Allah, est-ce que c'est avec... C'est, subhanallah, parfois on voit des reportages au Japon, ils ont inventé des robots qui parlent, qui peuvent marcher, etc., etc. On voit des choses, mais subhanallah, ça c'est rien, Allah Akbar. La création d'Allah, c'est bi kalimatin wahida. Allah Ta'ala dit, kun fayakun. Allah Ta'ala n'a pas passé des années ou des heures à créer Adam al-Islam. Allah Ta'ala a dit, soit, et Adam al-Islam a existé. Et quand Allah Ta'ala voudra détruire la totalité de la création, de tout ce qu'Allah a pu créer, comme être animé ou inanimé, malaïka compris, même les anges, طيب, Allah Azza wa Jal ordonnera à l'ange Israfil alayhi salam de souffler dans cette corne et il n'y aura plus de makhloukat. Et lorsqu'Allah voudra redonner la vie à la totalité des makhloukat, même les animaux, فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ. Allah Ta'ala ordonnera à Israfil de ressouffler une fois et la totalité de la création sera réveillée. Ça, c'est Al-Khalq. Allah, il crée à partir de rien. Allah, il reprend l'âme. Il peut donner la mort à la totalité de la création et redonner vie à la totalité de la création pour le jugement. Et les ulama, rahimahumullah, disent que, on terminera avec cette conclusion, il dit que si l'être humain a compris, a réalisé que c'est Allah qui m'a créé à partir de rien, du néant, Allah m'a donné la vie. Ben lorsque cet être humain est éprouvé par une maladie, par exemple, il doit comprendre que celui qui lui a donné la vie, celui qui a créé toutes ces cellules, qui a permis à toutes ces cellules de se développer dans le corps, des cellules à partir pour les os, pour la chair, pour la peau, pour les tissus, tout ça, celui qui a donné la vie, ben c'est lui-même qui est capable de donner la santé ou de donner la maladie. Donc, ce musulman doit en priorité, absolument, se diriger vers Allah lorsqu'il est éprouvé par la maladie, parce que c'est Allah qui est son khaliq, c'est Allah qui l'a créé de rien. Et donc, si cette création, cette créature, elle est éprouvée, ben c'est uniquement le créateur qui peut lui accorder le shifa, la santé. Je pense qu'on va s'arrêter là, d'accord? Ce qu'on voulait développer, Allah dit khalaqa fa sawwa, c'est un sujet intéressant, et ça prend un peu de temps, taïb. Encore plus de temps, mais inshallah la semaine prochaine, un vendredi prochain, on va essayer de développer ces quelques versets. Après, il nous restera un seul vendredi, éventuellement jusqu'aux vacances. Et après, inshallah, si Allah nous donne longue vie, on pourra continuer par la suite. Qu'Allah nous accepte. Hein, ce qu'on retiendra surtout, c'est le mayet, hein, le décès de notre frère. Et encore une fois, on demande à Allah Azza wa Jal que lorsque ce musulman sera posé de son qabre, dans sa tombe, et que les anges lui poseront les questions, qu'Allah les donne tabac, les répondent avec grande facilité, et que sa tombe s'élargit, et qu'une fenêtre du paradis soit ouverte pour lui, et que de cette fenêtre vient la lumière et le parfum du paradis, et que la personne repose en paix jusqu'au mahshar, et que son mizan et hasana, ses bonnes actions, soient en permanence augmentées par le biais des bonnes actions de ses enfants pieux. Parce qu'il n'y a rien qui peut profiter à un défunt, si ce n'est il y a quelque chose que le professeur a cité. Et parmi cela, waladun salihun yad'u lah, quelqu'un qui meurt, qui laisse derrière lui un enfant pieux, qui fait doua pour lui, ça c'est quelque chose qui sera immédiatement profitable pour la personne. Et que le jour du mahshar, cette personne sera ressuscitée, nous aussi, inshallah, avec les nabiyyin, les siddiqin, les shuhada et les salihin. في ظل عرش الله dans sous l'ombre du trône d'Allah le jour la ظل illa ظله, et qu'Allah Azza wa Jal lui remet son livret de compte à la main droite, et qu'au mizan et hasana c'est une formalité pour lui, et qu'il passe sur le sirat et qu'il accède au paradis, et à nous également inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Et n'oublie pas de jeûner Ashura, d'accord? N'oublions pas de jeûner. Pour l'île de la Réunion, si je ne me trompe pas, le 10 Muharram sera un jeudi, non? Vendredi. Donc, ce qui est masnoun, c'est déjeuner 9-10 ou alors 10-11. Certains sahabes, ou tabi'in, si je ne me trompe pas, ils faisaient 9-10-11. Pourquoi? Parce qu'ils étaient haris. Ils avaient peur que peut-être qu'on n'a pas vu la lune, mais ils avaient tellement peur de louper les faïdas qu'il y a de ce jeûne. Donc, nous, on jeûne c'est vendredi, hein? Ben, on jeûne jeudi, vendredi, c'est encore mieux parce qu'on aura un jeûne masnoun de jeudi. Voilà, on fait vendredi, samedi. Mais surtout de ne pas louper ce jeûne, même nos enfants qui sont balir, on fait en sorte qu'eux aussi peuvent faire le jeûne. Subhanallah, Rabbika, Rabbil Izzati, Amma, Yassifoun. Salamun ala al-mursaleen, alhamdulillah. Zahir.